Il y a 2000 ans, un manuel de rhétorique circulait dans le monde antique, et ce truc enseignait de la manière la plus cynique possible un comment mentir sous serment.
Ouais, le but, c'était vraiment pas la vérité. C'était juste la destruction totale de l'adversaire, pure et simple.
Exactement. Et c'est exactement cette technique-là, une technique documentée et enseignée, qui a été utilisée pour déclencher l'un des assassinats les plus célèbres du 1er siècle.
C'est fou quand on y pense, parce que souvent les récits qui ont façonné les grandes traditions religieuses, on les regarde à travers un vitrail super idéalisé.
Ouais, on s'imagine des petites scènes paisibles, tu sais, presque figées dans une espèce de sainteté intouchable.
Tout à fait. Mais quand on gratte un peu la surface, on découvre une réalité qui est brute, très politique et franchement sanglante.
Bon, décortiquons tout ça. La mission de notre exploration aujourd'hui, pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux dynamiques de pouvoir, c'est de prendre ce moment charnière de l'histoire, l'histoire d'un homme nommé Étienne, et de le regarder sous un autre angle.
Un angle qui nous donne une véritable leçon magistrale sur la rhétorique, les conflits nationalistes et cette fameuse loi des conséquences inattendues.
C'est ça. Et nos sources s'appuient aujourd'hui sur les recherches historiques du docteur Craig Kenner. Il a analysé en détail le procès et l'exécution d'Étienne, qu'on trouve dans les chapitres 6 à 8 des Actes des Apôtres.
Et ce qui est fascinant ici, c'est que toute cette histoire ne commence pas par une querelle sur des dogmes invisibles ou de la théologie abstraite. Ça démarre par un conflit social hyper concret, dans un lieu très spécifique de Jérusalem, la synagogue des Affranchis.
Ah oui, la synagogue des Affranchis est... Il faut préciser qu'à cette époque, les synagogues, ça fonctionnait un peu comme des centres communautaires, quoi.
Ouais, c'était des lieux de débat public, d'éducation. Ce n'était pas juste des espaces de prière silencieuse.
Et le terme « affranchi » cache une réalité politique redoutable. Si on remonte au 1er siècle avant notre ère, le général romain Pompée conquiert la région. Il réduit en esclavage des milliers de Judéens et les déporte à Rome.
C'est ça. Et les décennies passent. Beaucoup de ces esclaves, ou en tout cas leurs descendants, finissent par être affranchis.
Et là, il y a un détail juridique qui change la donne. Dans le droit romain, un esclave affranchi par un citoyen romain acquiert lui-même, sous certaines conditions, la citoyenneté romaine.
Et avoir la citoyenneté romaine dans l'Orient sous domination grecque, c'était énorme. C'était le passeport le plus puissant du monde à l'époque.
C'était un bouclier juridique absolu. Hein.
Totalement. Ça leur donnait un prestige social immense, un prestige que même les dignitaires locaux de Judée n'avaient pas la plupart du temps. Et ces anciens esclaves, devenus citoyens de l'Empire, ils ont fini par migrer de nouveau vers Jérusalem.
Et on a même des preuves archéologiques de leur puissance financière, non ?
Exactement. Il y a une inscription célèbre, celle d'un certain Théodote. Elle décrit une synagogue construite par cette communauté avec des infrastructures incroyables. Des bains rituels super sophistiqués, une hôtellerie pour les voyageurs internationaux, bref, le grand luxe.
C'est un peu l'équivalent antique d'un club d'expatriés ultra exclusif dans une capitale moderne. Un endroit avec des piscines privées, des salons feutrés, où tout le monde parle la langue de l'Empire, le grec.
Ouais, c'était vraiment un pôle d'influence majeur. Et il regardait sûrement la population locale, qui parlait majoritairement araméen, un peu de haut.
Et c'est dans cet écosystème très fermé, où gravite d'ailleurs probablement un jeune intellectuel nommé Saul de Tarse, que débarque notre gars, Étienne.
Voilà. Et Étienne, c'est aussi un juif de culture grecque, un helléniste. Mais au lieu de se conformer à l'idéologie de ce petit club privé, il se met à débattre avec eux.
Et les sources disent qu'il déploie une sagesse impossible à réfuter. En gros, il les bat à plate couture sur leur propre terrain intellectuel.
Et c'est là que la psychologie du groupe devient le vrai moteur de la tragédie. Face à cette défaite intellectuelle, il craque. Le docteur Kenner utilise une anecdote super parlante pour illustrer ce phénomène de dissonance cognitive.
Ah oui, l'histoire du professeur d'université.
C'est ça. Kenner raconte qu'il a débattu pendant des heures avec ce professeur. Et par honnêteté intellectuelle, Kenner concédait de temps en temps des petits points mineurs.
Ce qui est normal dans un vrai débat académique, quoi.
Bah oui. Mais le professeur, au lieu de voir ça comme une nuance, il s'en emparait pour tordre les mots et clamer une victoire totale. Il refusait d'admettre la moindre petite faille dans sa propre théorie.
Ouais, c'est de la mauvaise foi absolue.
Pire que ça. Un jour, poussé dans ses retranchements, ce prof a littéralement admis que même si quelqu'un ressuscitait des morts sous ses yeux, il trouverait quand même un moyen de ne pas y croire.
C'est dingue. C'est le refus pathologique de la remise en question. Je veux dire, l'identité même de la personne est tellement liée à son opinion que changer d'avis, c'est comme une mort psychologique pour eux.
Et c'est le mécanisme exact qui est à l'œuvre dans cette synagogue des affranchis. Le dialogue n'échoue pas par manque d'arguments. Il échoue parce qu'il devient existentiellement insupportable pour ces élites de perdre.
Il faut dire qu'ils avaient une sacrée fragilité sous-jacente, ces affranchis.
Bah oui, même s'ils sont riches et citoyens romains, ils portent toujours le stigmate de l'ancien esclavage et d'une culture étrangère. En Judée, ils étaient souvent perçus comme des juifs de seconde zone.
Du coup, pour compenser ce manque de légitimité, ils adoptent une posture ultra-conservatrice.
Exactement. Plus on se sent menacé ou illégitime dans son identité, plus on se radicalise pour prouver qu'on est dans le droit chemin.
Le fameux besoin d'être plus royaliste que le roi. Et comme il n'arrive pas à battre Étienne à la loyale, ben le vernis croque. Il décide de détruire l'homme, puisqu'ils ne peuvent pas détruire son argument.
Et c'est là qu'ils sortent les méthodes sombres. Ils engagent de faux témoins.
L'accusation est millimétrée. Hein. Blasphème contre le temple et contre la loi. Et c'est là que le manuel de rhétorique dont on parlait au début, le Rhetorica d'Alexandrum, entre en jeu.
Oui, ce texte qu'on a longtemps attribué à tort à Aristote prouve que la manipulation des témoins, c'était une vraie science étudiée à l'époque.
L'art oratoire antique, ça séparait complètement la morale de l'efficacité. Le but, c'était juste de fournir au jury un récit assez plausible pour condamner l'autre.
Sauf que là, il y a une ironie suprême. Une ironie qui devait glacer le sang de n'importe quel observateur un peu averti de l'époque.
Vas-y, explique.
Techniquement, dans l'Antiquité orientale, le blasphème, c'était profaner le nom même de Dieu. Or, pour que ces faux témoins puissent faire leur accusation au tribunal, ils devaient prêter serment.
Ah, et prêter serment, ça veut dire invoquer Dieu comme garant de la vérité.
Exactement. Ils invoquent le Dieu d'Israël pour valider un mensonge fabriqué de toutes pièces. Tout ça dans le but d'accuser Étienne d'avoir manqué de respect à ce même Dieu.
Donc ils commettent le crime exact qu'ils sont en train de dénoncer. C'est la profanation absolue. Mais attends, il y a un truc qui me chiffonne sur le plan juridique.
Quoi donc ?
Le livre du Deutéronome, au chapitre 19, il est super clair. Et le droit romain aussi d'ailleurs. Si un témoin est pris en flagrant délit de mensonge dans une affaire de peine de mort, il subit lui-même le sort réservé à l'accusé, non ?
Ouais, c'est la loi du talion appliquée aux témoins.
Bah alors, c'est un risque invraisemblable. Risquer sa propre exécution juste pour gagner un pauvre débat théologique de quartier, ça n'a aucun sens.
Eh bien, c'est une excellente analyse du droit de l'époque. Et ça prouve justement qu'on n'est plus du tout dans un simple petit débat théologique. Si ces hommes prennent un tel risque, c'est que leur terreur idéologique dépasse leur instinct de survie.
Ah ouais, la haine aveugle.
C'est ça. Et il faut voir la nature de l'accusation. Hein. S'attaquer au temple et à la loi. À l'époque, le temple de Jérusalem, c'était pas juste une belle cathédrale. C'était la banque nationale, le centre du gouvernement, le cœur absolu de l'identité culturelle.
Donc, accuser quelqu'un de menacer le temple, c'était ni plus ni moins de la haute trahison.
Exactement.
C'est d'une logique implacable quand on y pense. La religion dicte la moralité et le nationalisme dicte l'allégeance. Quand tu fusionnes les deux, bah tu crées un cocktail mortel.
Absolument.
Critiquer les institutions, ça ne fait plus de toi un citoyen en désaccord, ça fait de toi un hérétique qui s'attaque à Dieu lui-même. C'est ça qui rend tout dialogue impossible. On ne négocie pas avec le mal incarné.
Et l'histoire, qu'elle soit antique ou moderne, confirme vraiment cette mécanique destructrice. Les sources sont très impartiales là-dessus. Elles montrent que la fusion entre ferveur religieuse et nationalisme, c'est un des moteurs de persécution les plus constants.
T'as des exemples spécifiques ?
Bien sûr. Des siècles plus tôt, le prophète Jérémie a été battu et emprisonné juste pour avoir suggéré que le temple n'allait pas protéger la ville. Plus tard, au 1er siècle, un type nommé Josué ben Anania a prophétisé contre le temple. Les autorités l'ont fait flageller jusqu'à ce que ses os soient exposés.
Ouch. C'est radical.
Et cette dynamique, elle transcende de toutes les époques. Les sources soulignent que ce soit des mouvements de gauche qui dénoncent les mythes fondateurs d'une nation ou des mouvements de droite qui dénoncent une décadence morale des institutions, le résultat est le même.
Ouais. Quiconque remet en cause le sacré national se prend la fureur du système en pleine face.
C'est exactement ça.
Du coup, la tension est à son comble quand Étienne est traîné devant le Sanhédrin, la Cour suprême. Le piège semble parfait. S'il nie avoir critiqué le temple, il passe pour un lâche. S'il l'affirme, il signe son arrêt de mort.
Mais la stratégie de défense d'Étienne est un véritable chef-d'œuvre.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Au lieu de se justifier, il se lance dans un cours d'histoire. Ça me fait penser à ces avocats brillants qui, face à un tribunal hostile, commencent par réciter des anciens précédents juridiques avec une voix super calme.
Ouais, pour endormir la méfiance des juges.
C'est ça. Il crée une illusion d'accord et paf, il referme le piège et retourne l'argumentation contre la cour.
La comparaison est parfaite. Parce que la rhétorique d'Étienne, elle est structurée autour d'un concept qui est juste insupportable pour ses juges. L'idée d'un dieu sans frontières.
Un dieu qui n'a pas de code postal.
Exactement. Ils racontent leur propre histoire, mais en déplaçant les projecteurs. Ils rappellent que Dieu est apparu à Abraham, mais pas à Jérusalem, en Mésopotamie, en plein territoire païen.
Ouais, loin de la terre promise.
Ensuite, ils rappellent que Dieu a protégé Joseph en Égypte. Et surtout, il a parlé à Moïse dans le désert de Madian.
Il va même jusqu'à citer le moment du buisson ardent. Dieu dit à Moïse, « Retire tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. »
Et ça, c'est pas juste un petit rappel biblique mignon, hein.
Ah, c'est une frappe chirurgicale. Il est en train de leur dire en face qu'un vieux bout de roc paumé en plein désert d'Arabie sans aucun prêtre valait exactement la même chose que leur temple magnifique couvert d'or.
C'est la présence de Dieu qui sanctifie le lieu et non l'inverse. Ça a dû les rendre complètement fous d'entendre leur monopole détruit avec leur propre texte fondateur.
Surtout qu'Étienne ne s'arrête pas là. La provocation est totale. Il brise tous les tabous.
Ah oui. Il insiste lourdement sur l'épisode du veau d'or.
Ah, ce moment de rébellion primale au pied du mont Sinaï.
C'était une tâche tellement embarrassante pour l'orgueil national que même l'historien judéo-romain, Flavius Joseph, l'avait carrément censuré de ses écrits pour le public gréco-romain. Et Étienne, bam, il le met en plein milieu de son discours.
Pour bien exposer leur vulnérabilité morale. Et il y a un autre détail qui fâche, concernant Moïse.
Le mariage ?
Ouais.
Étienne prend soin de rappeler que Moïse était marié avec une femme nubienne, une femme africaine. Dans un écosystème qui est complètement obsédé par la pureté rituelle et la séparation des nations, c'est une bombe.
C'est clair.
Rappelez que le plus grand législateur de l'histoire, l'auteur de la loi qu'on accuse Étienne de blasphémer, avait fait un mariage interethnique, c'est détruire leur mythe de pureté raciale.
Il déconstruit leur idéologie brique par brique.
Et toute cette déconstruction sert un but précis, établir le motif du libérateur rejeté. Étienne tisse un vrai miroir accusateur.
Comment ça ?
Il montre que Joseph a été vendu par ses propres frères, que Moïse a été repoussé par son peuple au début. Le sous-entendu est dévastateur. Il leur démontre que rejeter les envoyés de Dieu, ce n'est pas une anomalie, c'est la véritable tradition nationale de leur peuple.
C'est brillant. Son piège rhétorique est tellement parfait qu'il ne laisse aucune échappatoire intellectuelle au juge. Et là, il referme violemment le filet.
Il passe à l'attaque frontale.
Ouais. Il regarde les hommes les plus puissants du pays et il leur lance « Vous avez la nuque raide, vos ancêtres ont tué les prophètes, et vous, vous venez de trahir et de tuer le juste. »
Le coup de grâce.
Mais stratégiquement parlant, c'est absurde, non? Un accusé qui veut survivre ne traite pas ses juges d'assassins? Est-ce que c'est pas juste un suicide théâtral à ce stade?
C'est une vraie question. D'ailleurs, la philosophie antique s'est beaucoup penchée sur l'attitude à adopter au tribunal. Le philosophe stoïcien Épictète critiquait durement ceux qui provoquaient leurs juges.
Genre pour faire les malins?
Voilà. Il prenait l'exemple d'un homme qui se prenait pour Socrate pour afficher son mépris du danger. Pour Épictète, c'était juste de la stupidité suicidaire, parce que ça garantissait une condamnation évitable.
Donc Étienne était stupide.
Non, parce que la dynamique d'Étienne est différente. Il n'est plus dans le registre de la défense juridique. Il a compris que les dés étaient jetés. Il endosse le rôle classique du prophète.
Il sait que sa mort est inévitable.
Exactement. Il ne cherche pas l'acquittement. Il utilise sa tribune pour prononcer le verdict cosmique et historique sur ses propres bourreaux.
Et la seule façon pour ses juges de sauver la face et leur fierté brisée, c'est de détruire physiquement ce type. La violence qui suit, c'est pas de la justice. C'est un terrible aveu de faiblesse intellectuelle.
Tout à fait. Et ça nous amène à la brutalité inouïe de la lapidation.
Oui, parce que les peintures, elles nous montrent souvent une foule qui lance des petits cailloux de loin. Mais la réalité historique est beaucoup plus clinique, beaucoup plus terrifiante, n'est-ce pas, Evelyne ?
Ah, absolument. Les traités rabbiniques, comme le traité Sanhédrin dans la Mishnah, documentent les procédures de lapidation et c'est glaçant.
Vas-y, raconte-nous ça.
D'abord, pour ne pas profaner la ville, le condamné est expulsé violemment hors des murs. Ensuite, il n'est pas juste caillassé. Il est amené au bord d'une falaise ou d'un escarpement rocheux.
Et on le pousse.
On le pousse dans le vide, oui. La chute est censée lui briser le cou ou la colonne vertébrale. Mais s'il survit à la chute, la loi impose que ce soit les témoins de l'accusation, ceux qui ont prêté serment, qui soulèvent un lourd bloc de pierre.
Pour le lâcher sur lui.
Oui, ils doivent le lâcher sur la poitrine du condamné pour écraser son cœur. L'idée de base, c'était de responsabiliser le témoin. Si tu mens, tu dois tuer de tes propres mains.
Sauf que là, les faux témoins de la synagogue des affranchis n'ont aucun problème moral. Et d'ailleurs, il y a ce détail narratif qui me fascine. Pendant qu'Étienne meurt en pardonnant à ses bourreaux, ce qui calque les derniers mots de Jésus, d'ailleurs, les témoins retirent leur manteau.
Oui, pour être plus à l'aise dans leurs mouvements.
C'est fou. C'est exactement comme des sportifs qui s'échauffent sur le bord du terrain et qui retirent calmement leur veste avant d'entrer dans le match. L'acte de tuer devient juste un effort physique banal.
C'est l'illustration parfaite de la déshumanisation. Et le jeune homme qui garde les manteaux, c'est Saul de Tarse, celui-là même qui fréquentait ces milieux élitistes grecs. Il valide cette exécution, il canalise son zèle vers l'écrasement de la dissidence.
Mais c'est précisément dans ce moment d'horreur qu'il y a un détail visuel dans le texte qui retourne absolument tout. Juste avant de tomber, Étienne dit qu'il voit Jésus dans le ciel, mais il précise qu'il le voit debout, à la droite de Dieu.
Et ça, c'est une anomalie théologique majeure.
Bah oui, oui. Partout ailleurs, les sources disent que le roi ou le Messie est assis à la droite de Dieu. Dans l'Antiquité, un souverain ou un juge en fonction, il est toujours assis sur son trône, non ?
Exactement. Se lever, c'est la posture qu'on adopte quand on est un témoin à la barre ou quand le juge suprême se lève pour prononcer la sentence finale.
C'est pas juste une hallucination, alors. C'est une déclaration politique.
C'est la clé de lecture de tout l'événement. En disant qu'il voit la figure divine debout, Étienne informe ses bourreaux que leur cour suprême terrestre est totalement illégitime.
Le véritable tribunal siège ailleurs.
Voilà, les rôles sont cosmiquement inversés, les juges croient prononcer une condamnation, mais à cet instant précis, ce sont eux qui sont jugés par l'autorité suprême.
L'ironie jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Parce que cette exécution, elle ne calme pas du tout les esprits. Elle déclenche une persécution brutale menée par ce fameux Saul.
Le pouvoir en place pense avoir gagné. Il pense avoir extirpé la tumeur.
Mais le résultat est diamétralement opposé. En traquant les croyants, il les force à fuir Jérusalem. Les réfugiés s'éparpillent le long des routes commerciales du monde gréco-romain. Et en fuyant, devine quoi ? Ils emportent leurs idées.
C'est l'effet papillon par excellence.
Totalement. Le coup de marteau censé écraser le mouvement est précisément ce qui le transforme en une explosion mondiale.
Le désir de contrôle absolu génère la perte de contrôle total. Et pour clore cette analyse, les sources nous offrent une dernière réflexion assez inattendue.
Ah oui, l'histoire de Philippe.
Oui. Juste après cette dispersion, le récit délaisse Jérusalem pour suivre Philippe, un ancien collègue d'Étienne. Il fuit en Samarie et déclenche un mouvement populaire massif dans une grande ville. Des foules entières adhèrent à son message.
Un triomphe urbain absolu.
Une réussite fulgurante qui pourrait compenser la tragédie de Jérusalem. Mais au sommet de ce succès, la direction divine lui ordonne de tout quitter, de laisser cette foule immense pour marcher sur une route désertique en direction du sud.
C'est totalement contre-intuitif. Abandonner un succès de masse, des milliers de partisans, pour aller marcher tout seul dans le désert. Logistiquement parlant, c'est absurde.
Et pourtant, sur cette route vide, Philippe finit par croiser le chemin d'un seul individu, un haut dignitaire éthiopien, le ministre des Finances d'une reine lointaine, qui rentre chez lui dans son char.
Pourquoi retirer un orateur d'un triomphe urbain pour l'envoyer vers un seul type sur une route poussiéreuse ?
Eh bien, il faut comprendre la cartographie mentale de l'époque. Dans l'imaginaire antique, l'Éthiopie, ça ne représentait pas juste un pays lointain. Ça incarnait littéralement les extrémités de la Terre, la frontière absolue du monde connu.
Waouh ! C'est une inversion totale des valeurs de pouvoir. Les membres du Sanhédrin, eux, ils pensaient changer l'histoire avec des tribunaux somptueux, de la rhétorique de pointe et des exécutions publiques au cœur de la capitale.
Pendant ce temps-là, le vrai changement se passait ailleurs.
Ouais, loin des regards. À travers une simple conversation silencieuse entre deux voyageurs sur une route aride. Et c'est cet homme, isolé, qui allait exporter cette révolution de pensée au-delà des frontières de l'Empire romain.
C'est la réflexion ultime que ces événements laissent à l'histoire. Parfois, les basculements de civilisations les plus durables ne se produisent pas sous les projecteurs, dans les débats d'élite ou sous les acclamations des foules.
Ils prennent racine dans le silence.
Exactement. À travers l'attention accordée à un individu isolé qui emportera discrètement une idée nouvelle jusqu'aux confins du monde.
Les ondes de choc les plus puissantes commencent souvent là où personne ne regarde. C'est fascinant de voir à quel point ces sources historiques bouleversent notre compréhension du pouvoir et de la diffusion des idées. La prochaine fois que l'actualité semblera écrasée sous le poids des tribunaux et des violences, il suffira peut-être de détourner le regard vers les routes désertes pour découvrir où le monde est véritablement en train de basculer.
À la prochaine pour une nouvelle exploration.